On a pris la bonne habitude au courant de la semaine passée de jaser à tous les jours aux alentours de 10h40 des gros sujets d'actualité politique de la journée, que ce soit au provincial, fédéral, à l'international avec l'ami Georges Mercier, analyste politique. C'est une habitude qu'on garde cette semaine et qui sait, peut-être aussi pour les prochaines semaines. C'est sûr que vous allez continuer d'entendre Georges Mercier dans le Point de Max. Georges, salut!
Salut Max.
Gros matin d'actualité. On attendait tous à 7h30, oui, l'annonce de la nouvelle programmation à Boulevard 102.1, mais aussi Paul Saint-Pierre Plamondon voulait sa partie du spotlight parce qu'il a annoncé hier soir qu'il allait faire une annonce à 7h30 ce matin, lui également. Et là, les réseaux sociaux se sont enflammés. Certains disaient « bon ». Voilà, Paul Saint-Pierre Plamondon recule finalement sur sa promesse de tenir un référendum sur la souveraineté du Québec dans un premier mandat. Assez rapidement, il y a notamment la presse qui est sortie avec des informations à l'effet que ce serait pas le cas, qu'il n'allait pas être question d'un recul là-dessus. Mais quand même, il y en a ce matin qui parlent d'un recul du Parti québécois parce qu'il s'engage à ne pas tenir de référendum sur l'indépendance tant que Donald Trump sera président des États-Unis, donc jusqu'en janvier 2029. Il me semble qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans. On vient clarifier quelque chose, mais c'était déjà évident qu'il n'y aurait pas de référendum tant que Trump serait là. Moi, je le vois pas comme un recul. Je sais pas de ton bord, là.
Ben moi, je suis 100% d'accord avec toi. Pour qu'il y ait eu un recul, il aurait fallu qu'il annonce une date qui aurait été plus hâtive, qui change sa date maintenant. À ma connaissance, le PQ s'était jamais prononcé sur le moment de la consultation, du référendum, de la question dans un premier mandat. La ligne de PSCP, c'était de dire il y aura consultation dans un premier mandat. Là, tout ce qu'on est venu faire aujourd'hui, c'est ajouter une condition au moment de cette consultation-là, à savoir lorsque Donald Trump ne sera plus président des États-Unis. Et honnêtement, Max, moi, je lis des indépendantistes sur mes réseaux sociaux qui poussent des cris d'orfraie, qui pensent justement, eux, que c'est un recul, qui en veulent à PSPP. J'ai bien de la misère à comprendre à quel point il faut être déconnecté de la game politique au Québec pour en vouloir au chef du Parti québécois d'offrir une forme de garantie, une forme d'une manière de rassurer les Québécois par rapport au référendum dans un contexte où il y a un immense paradoxe dans la politique québécoise actuelle, c'est qu'on a un chef de parti qui est clairement en tête dans les intentions de vote, notamment chez les francophones, mais qui est porteur d'une option politique qui séduit une partie significative de l'électorat, ça il faut le dire, mais qui n'est pas prioritaire pour à peu près personne, qui est prioritaire pour à peu près personne. Donc ça me semble une mesure tout à fait rationnel, tout à fait responsable, tout à fait mature. Parce que j'ajouterais un point où nos amis indépendantistes un peu pressés qui nous écoutent. Tu sais, la job du PQ, Max, si le PQ veut faire l'indépendance, c'est d'abord et avant tout de former un gouvernement. Puis d'abord et avant tout de former un gouvernement majoritaire pour avoir les coups des franches, pour réussir à mettre en place les conditions d'un référendum qui aurait une chance de l'emporter. Et bon, si PSPP peut améliorer ses chances d'avoir un gouvernement majoritaire comme ça, eh bien, grand bien lui fasse.
J'ai quand même hâte de voir comment ça peut-être ou pas changer la dynamique de la campagne. Parce que pour moi, ça ne changera rien dans le sens où les adversaires peuvent encore jouer sur la peur du référendum. Alors que si Paul Saint-Pierre Plamondon était arrivé et avait vraiment reculé en disant « Hey, savez-vous quoi? » On n'en fera pas dans un premier mandat un référendum, bien là, on venait changer toute la dynamique. Là, en étant seulement venu clarifier qu'on ne fera pas ça dans les premières années, qu'on allait au moins attendre que Donald Trump parte, bien, les adversaires peuvent encore jouer exactement la game qui est prête dans leur cahier de jeu depuis des mois et des mois, pour ne pas dire peut-être des années, la peur du référendum. Pour moi, ça ne change pratiquement rien ce qui a été annoncé ce matin ou clarifié.
Non, mais ça donne d'abord une réponse de la part du Parti québécois. Si dans un débat des chefs, si durant la campagne électorale, Charles Milliard ou Christine Fréchette, peut-être même Ruba Gazal, devait sortir la carte du référendum, là, le PQ pourrait répondre « Écoutez, on a été clair là-dessus, c'est pas avant que Trump quitte, donc c'est pas avant au moins deux ans et demi. » Donc d'abord, il y a cette réponse-là qui est toute faite, qui est facile. Ensuite, il faut aussi noter une chose, le PQ a été très astucieux, même avant l'été, pour mettre sous le tapis la question référendaire. C'est pas pour rien qu'on a sorti le livre bleu avant l'été, le livre bleu qui explique les tenants et les aboutissants de l'indépendance, avant le début officiel de la campagne électorale, avant l'été. L'idée, c'est de dire, voici un document où vous avez des réponses à vos questions, on y a répondu, ce ne sera pas le thème principal de la campagne électorale. Parce qu'on est conscient au PQ, paradoxalement, que l'indépendance n'est pas un enjeu gagnant d'un point de vue électoral si on veut former un gouvernement majoritaire. Donc, on vient de faire deux choses. On concentre les réponses dans un document, puis on réfère les questions à ce document-là. Et au même moment, on donne une forme de clarté sur quand aura lieu ce référendum-là. Puis j'ai envie de dire, c'est tellement dans longtemps rendu là que est-ce que ça va vraiment percoler chez les électeurs les menaces de peur de la part des autres partis? Je sais pas. Moi, je sais pas si les électeurs sont, je pense que les électeurs sont plus intelligents que ce type de manœuvre-là, auquel on est habitué, hein, en passant.
Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, à ton humble avis, Georges Mercier, aurait été mieux de complètement reculer sur l'idée d'un référendum dans un premier mandat? À ce moment-là, ce serait pratiquement assuré de former un gouvernement majoritaire. On aurait pu gouverner le Québec pendant 4 ans, puis montrer aux Québécois ben, qu'on est capable de former un bon gouvernement, puis ensuite de ça, repartir en élection et là le dire, il y a un référendum qui s'en vient. Est-ce qu'on aurait dû y aller de cette façon-là, selon toi?
Je pense qu'un autre leader du Parti québécois aurait pu faire ça, mais pour bien connaître plusieurs proches de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un homme qui sincèrement est profondément convaincu que la meilleure chose qui puisse arriver au Québec, ce serait l'indépendance. Et là, il y a aussi un paradoxe propre à la personne de PSPP. Parce que ce que les Québécois semblent apprécier chez lui, c'est oui, il incarne une forme de changement, oui, il a l'air compétent, mais c'est aussi un homme de conviction. Bon, majoritairement, les Québécois sont pas d'accord avec sa conviction principale, sa conviction phare, mais néanmoins, il n'aurait pas pu revenir en arrière parce qu'il aurait perdu justement cette aura d'homme intègre, convaincu, qui l'accompagne et qui lui profite. Donc, il marche sur une ligne qui est très, très fine, Paul Plamondon. C'est vraiment un exercice d'équilibriste. Et là, ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est une manière de garder l'équilibre. Puis d'abord, le beurre et l'argent du beurre. De rester fidèle à ses convictions, tout en donnant une forme d'assurance, une forme de garantie aux Québécois qui n'apprécient pas ces convictions-là, bien qu'ils apprécient le fait qu'il est convaincu.
On a récemment eu des résultats de sondages qui nous ont comme montré là, le portrait à quelques semaines du déclenchement des élections. J'imagine qu'on aura d'autres sondages, que ce soit léger ou autre, là, dans une dizaine de jours pour le début des élections. Est-ce que tu t'attends à déjà, dans les prochains sondages, avoir du gros mouvement avec ce qui a été clarifié par Paul Saint-Pierre Plamondon ce matin, avec ce qui s'est passé hier du côté de Terre-Neuve, Christine Fréchette qui était là, avec Mark Carney, avec le dirigeant du côté de Terre-Neuve aussi. Penses-tu que ça va bouger beaucoup ou que c'est vraiment à partir du début de la vraie campagne où là pourrait y avoir plus de mouvement?
Ben, ça dépend si les électeurs sont au poste là, au début de cette vraie campagne-là. Ce qui va être intéressant aussi, Max, tu nommes ces deux éléments-là, il y a aussi le résultat des négociations commerciales qui risquent d'avoir un impact en fonction de ce que Ottawa donne aux Américains par rapport au Québec. La seule chose qu'on sait par rapport à ça, c'est qu'il y a un sondage léger, la dernière semaine, qui a posé la question aux Québécois. Est-ce que vous voteriez davantage pour PSPP s'il abandonnait sa promesse de référendum dans un premier mandat? Et là, ça donnait des scores quasiment soviétiques d'appui. C'est pas ça qu'il a fait aujourd'hui. Mais néanmoins, ça va dans une direction similaire. Donc, ça pourrait avoir un impact chez les électeurs mous. Parce que ce que le dernier léger nous disait, c'était aussi qu'il y avait un électeur sur deux, à peu près, dont le choix n'était pas définitif. Est-ce que si vous êtes un Québécois nationaliste, fédéraliste, ce type d'annonce-là de la part de PSPP peut vous aider à aller au PQ, même si vous n'êtes pas d'accord avec l'indépendance? Je pense que oui, parce que peu importe l'option, ça montre quand même un leader, PSPP, qui est à l'écoute de la population québécoise, qui prend le pouls de la population québécoise et qui est capable de faire preuve de flexibilité et de souplesse. Est-ce que dans la tête de certains électeurs, on pourrait se dire, bah, écoutez, il met un peu d'eau dans son vin ici, peut-être qu'au final, il pourrait mettre de l'eau dans son vin, même sur le référendum dans un premier mandat. Donc, je peux prendre le risque de voter pour lui. Ça me semble concevable.
Parlant de mettre de l'eau dans son vin, je reste chez un autre parti qui se dit souverainiste, Québec solidaire. Ruba Gazal, qui a donné une bonne entrevue, là, puis quand je dis bonne, dans le sens, a dit beaucoup de choses, au Journal de Québec, puis ce qui en est ressorti notamment, c'est que QS allait abandonner l'idée d'une surtaxe pour les véhicules à essence, allait reporter son objectif de réduction de gaz à effet de serre. On dirait un genre de Québec solidaire qui met un peu d'eau dans son vin, un peu comme le proposait Gabriel Nadeau-Dubois avant de sacrer son camp. Un Québec solidaire qui peut-être a compris qu'il allait falloir se recentrer un petit peu si on veut survivre puis faire élire au moins 1, 2, 3 députés.
Ouais, en fait, Québec solidaire n'est pas original là-dedans, hein, Max. C'est à peu près toutes les gauches occidentales qui, dans les derniers mois, ont semblé finalement faire leur post-mortem, revenir des lubies puis des sommets de wokistes, disons, du début des années 2020, et comprendre que s'ils voulaient avoir une chance de rester sur les cartes électorales, de continuer à avoir des députations, mais il n'y aurait pas le choix de revenir plus près des électeurs. Puis revenir plus près des électeurs, ça veut dire deux choses. D'abord, ça veut dire abandonner les enjeux identitaires qui payaient pas. C'est peut-être des enjeux importants, mais ça payait pas. Ça effrayait une partie de l'électorat. Ça servait à rien. OK? Donc, des trucs comme définancer la police, Gaza, les politiques qui sont sur la lutte pour l'équité raciale, des choses comme ça. Bon. Donc, on abandonne les politiques identitaires d'un côté, mais au même moment, on revient plus près des enjeux, plus proche des Québécois, des électeurs, comme le coût de la vie, le logement, la santé, des choses très, très terre à terre, où il y a quand même une prime à la gauche. Parce qu'on pourrait accuser Québec solidaire de bien des choses. On pourra pas leur dire qu'ils ne se soucient pas du sort des plus démunis. Et au même moment, essayer de comprendre que sur des enjeux comme l'écologie, ce qu'on appelait l'écologie punitive, donc tenter de contraindre les individus à avoir de meilleurs comportements, c'était pas la meilleure marche à suivre, qu'on pouvait envisager d'autres politiques qui sont moins contraignantes, mais qui pourraient aboutir aux mêmes objectifs, plus d'incitatifs, par exemple. Et si on arrive à faire ces deux choses-là, du côté de Québec solidaire, ben, on se replace de manière beaucoup plus séduisante sur la carte électorale, parce qu'il y a des gens de gauche au Québec, il y a des gens de gauche qui veulent de vraies politiques de gauche, mais qui voulaient rien savoir, disons, de l'abandon de la nation, en quelque sorte, d'abandon des questions nationales. Donc, c'est positif, à mon sens, pour QS. C'est vraiment un signe de maturité de la part de Rubén Gazal. Ce qui est un peu triste dans tout ça, Max, c'est que ça me semble trop peu trop tard. Je ne sais pas si dans les quelques semaines qui nous séparent de l'élection, ils seront suffisamment bons au niveau des relations publiques, au niveau de la communication, pour convaincre les électeurs que vraiment il y a eu un changement. Donc, ça aurait été bien que ça arrive il y a un an.
Parce que moi, je fais partie des gens qui est pour une grande pluralité à l'Assemblée nationale. Moi, je veux quelques députés du Parti conservateur du Québec. Je veux quelques députés de Québec solidaire. Bon, des députés de la CAQ, des fois, moi, je ne sais pas trop où ils se placent. Fait que ça me rend plus indifférent, mais moi, je suis pour qu'on ait des députés qui sont plus à gauche et certains qui sont vraiment plus à droite, puis qui amènent certaines idées dont les partis peuvent être représentés. Fait que moi, pour la démocratie puis pour les idées, ben, hey, je pense que je veux qu'il y ait 2, 3, 4 députés solidaires puis au moins ce même nombre-là de députés conservateurs. C'est sain pour la démocratie.
Ah, moi, je suis 100% d'accord avec toi. Il y a même des preuves empiriques de ça, Max. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Patterns of Democracy. Puis ce que l'ouvrage démontre, là, l'ouvrage académique démontre, c'est que en général, les systèmes proportionnels, pas comme le nôtre, là, mais qui assurent une meilleure représentation des différents partis au sein des parlements, font de meilleures politiques publiques. Pourquoi? Parce que les partis politiques n'ont pas le choix de s'écouter les uns les autres. Puis c'est bien qu'on ait un parti plus à gauche à l'Assemblée nationale, parce que ça illustre des angles morts, parce que tous les partis ont des angles morts. Ça nous fait penser à des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé sinon. Donc, le pluralisme au Parlement, c'est une bonne chose, ne serait-ce que parce que personne n'a la science infuse. C'est pas vrai que le Parti québécois a 100% des solutions, ou le Parti conservateur, ou la CAQ, ou QS, ou que sais-je encore. On veut une diversité d'opinions pour forcer tout un chacun à prendre en considération des intérêts de segments de la population qui ne votent pas pour eux, mais qui néanmoins font partie de notre nation.
Georges Mercier, en terminant, on est à la veille de nouveaux tarifs américains face au Canada. Là, on a appris dans les dernières heures que Donald Trump et Mark Carney se seraient parlé au téléphone hier. Ton call, est-ce qu'on va les éviter, ces nouveaux tarifs-là, ou tu penses que ça va entrer en vigueur?
Veux-tu qu'on fasse un pari? Si j'avais à parier un gros 5$, là, je pense qu'on risque d'avoir d'ici la fin de la journée un message sur Truth Social de Donald Trump qui dira « J'ai eu un très bon appel avec Mark Carney, les négociations progressent, je donne un autre délai au Canada ». C'est ce qui me semble le plus probable, personnellement. Je serais surpris qu'on ait un vrai accord d'ici la fin de la journée, toutefois, parce que ce qu'on apprend, c'est que la distance est encore très grande entre les deux parties. Mais néanmoins, je serais tout aussi surpris que ces droits de douane-là entrent bel et bien en vigueur. Si ça devait être le cas, là, ça veut dire que les Américains sont vraiment intransigeants sur les demandes phares qu'ils font, à savoir garder leurs droits de douane sur l'acier, l'aluminium, l'automobile, le bois d'œuvre. Et ça, c'est peut-être parce que les Américains, tu sais, ça, on l'oublie un peu, sont dans une vraie démarche de réindustrialisation puis de ramener les industries chez eux. Dans ce contexte-là, s'ils croient que la meilleure manière de le faire, c'est vraiment de limiter l'accès à leur marché, mais ça risque de rester comme ça. Et peut-être que le Canada, si on ne veut pas mettre de l'eau dans notre vin là-dessus, on ne parviendra pas à un accord, ça, c'est pas ton problème.
Georges Mercier, analyste politique, toujours le fun. On se reparle demain, 10h40.
À demain, Max.
Salut. Au retour, c'est l'Open Mic avec Audrey Pinchot. Et aujourd'hui, on jase avec un allergologue. On va discuter d'une nouvelle façon de possiblement clairer les allergies alimentaires. C'est le grand sujet, j'ai envie de dire. Mais curieux de savoir, 88-971-1021, avez-vous trouvé que c'était pire, les allergies cette année, que par le passé? On dirait que personnellement, oui. Mais en même temps, ça dépend des matins. Depuis des semaines, on dirait que je suis correct. Là, à matin, pour une raison que j'ignore, on dirait que les allergies m'ont fessé durant ma marche vers le travail. 88-971-1021. Comment ça va, vous autres, les allergies? On vient avec l'Open Mic. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard.
Le Point de Max.